Est-ce la bonne décision ? Quelque chose ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Bonjour Dorothée Rouzet.
Bonjour.
Bienvenue. Vous êtes chef économiste de la Direction Générale du Trésor. Patrick Artus, bonjour.
Bonjour Dégueulasse.
Conseiller économique de Natixis. Vous avez coécrit de l'économie d'abondance et l'économie de rareté chez Odile Jacob. Guillaume Poitrinal, bienvenue.
Bonjour.
Fondateur de WO2, promoteur immobilier bas carbone. Et vous avez publié, pour en finir avec l'apocalypse, une écologie de l'action, publiée chez Stock. Est-ce que le piège budgétaire se referme, Patrick Artus ? On a l'impression qu'en fait, il ne se passera jamais rien. Et qu'on peut continuer éternellement à vivre comme nous vivons. Parce que regardez, 2007, François Fillon, nous sommes en faillite. Bon, le mot faillite ne correspond pas à ce qu'il faut dire pour un État, il faut dire banqueroute. On est en 2024 et tout va bien.
Bon, alors, je vais pousser le bouchon un peu loin et je vais défendre la thèse provocante que la meilleure politique, c'est de ne pas essayer de réduire le déficit public.
La meilleure politique est de ne pas essayer de réduire le déficit.
Et puis mes camarades diront l'inverse probablement. Mais l'argument, il y a trois arguments. D'abord, il n'y a aucun signe que la dette publique de la France soit moins demandée sur les marchés financiers.
C'est vrai.
Quand on regarde les adjudications du Trésor, toutes les adjudications sont trois fois souscrites. Le spread de taux avec l'Allemagne à 44 points de base, il a absolument pas frémi, etc. Deuxièmement, si on considère l'ensemble France-Allemagne, et c'est justifié du point de vue d'un investisseur. Un investisseur, je pense que la dette française est très très substituable à la dette allemande. On peut ajouter les deux déficits publics et les deux dettes publiques. Quand vous ajoutez le déficit public de la France et le déficit public de l'Allemagne, vous allez vous trouver un peu en dessous de 3% du PIB cette année.
Donc c'est quand même super audacieux.
Non,
c'est super audacieux.
C'est un argument de substituabilité très fort entre les deux dettes.
C'est une fusion obligatoire.
Et ça correspond à une réalité de marché, parce que les gens ne pouvant plus acheter de dette allemande, puisqu'il n'y en a plus, ils vont chercher de la française. Donc ces deux dettes sont parfaitement substituables et on peut ajouter toutes les caractéristiques budgétaires des deux pays. Et troisièmement, si on commence à réduire le déficit public, on va réduire plutôt les dépenses d'avenir que les dépenses utiles. Et les dépenses d'avenir, c'est la croissance future, donc on aggrave la situation pour l'avenir. Donc je pense qu'il y a une piste qui est de s'engager à augmenter la part des dépenses d'avenir dans le total des dépenses, mais à ne pas faire baisser le total des dépenses.
Waouh ! Bon. À l'argumentaire, l'argumentaire me laisse proche.
La question, voilà,
le deuxième point sur l'ensemble France-Allemagne, c'est
j'ai jamais entendu ce truc-là. La question, elle est toute
Guillaume
simple.
Guillaume Poitrinal, et puis question, Dorothée, vous prenez la parole.
Non, mais Dorothée, elle va faire la synthèse.
Oui, elle va faire la synthèse.
La question, elle est toute simple. C'est est-ce que la France peut être durablement le numéro un mondial de la dépense publique, 59,5% du PIB.
58.
Ça dépend des années, là. Le numéro un mondial des prélèvements obligatoires, puisque je rappelle que quand même, là, on est quand même passé devant la Norvège et le Danemark, donc avec en 2023 plus de 46%. Le numéro un de l'OCDE pour le déficit public. Déficit qui quand même dépasse 160.
On est leader, déficit public,
160
l'OCDE.
Numéro 1 de l'OCDE. On dépasse 160 milliards. Il faut que les auditeurs comprennent ce que c'est que 160 milliards sur le budget de l'État. Là, c'est sur le budget de l'État.
Parce qu'en pourcentage du PIB, il y a les États-Unis qui sont largement devant nous.
Je suis d'accord. Mais en tout cas, sur 160 milliards.
C'est un cas spécial des États-Unis.
Oui, mais les États-Unis.
C'est pas comme les autres, les États-Unis.
Les États-Unis, il y a 27% de prélèvements obligatoires. Donc arrêtons de se comparer aux États-Unis en disant les États-Unis, finalement, ils vivent à crédit. Ils vivent à crédit, oui. Mais il n'y a pas d'impôt. Donc, c'est pas très grave, puisqu'en fait, le crédit, c'est jamais qu'un impôt différé, qui un jour sera bien payé, de toute façon. Ces 160 milliards de déficit public, ou 173 milliards, puisque maintenant, là, c'est le nouveau chiffre.
Ouais, à peu près.
Les Français se rendent pas compte de ce que c'est, parce qu'en fait, par milliard, on se rend pas compte. Il faut le rapporter.
C'est un nombre TVA.
Il faut le rapporter au nombre de foyers français. Il y a 30 millions de foyers français. Ça représente, par foyer français, 5 000 euros. 5 000 euros, c'est-à-dire, en fait, 2 mois de pouvoir d'achat supplémentaires dans la poche des Français qui vont principalement à de la dépense sociale et qui ne sont pas gagnés par les Français, qui sont empruntés sur les générations suivantes. Est-ce que ce modèle est stable ? Est-ce qu'il est possible de vivre comme ça éternellement ? Moi, je prétends que non, je prétends que ça coûte cher, et je prétends qu'en fait, tout simplement, et c'est ce que peut-être Patrick Artus manque, peut-être, enfin, la thèse finale, la sortie du système, c'est les marchés. Les marchés, ils vous préviennent pas avant de vous dégrader. Ils vous dégradent et un jour, ils veulent plus de votre dette. Donc, et ça prévient pas. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui, l'OAT, moi, j'ai été patron d'entreprise, j'ai émis des obligations par milliards d'euros. Et je peux vous dire que le jour où les marchés se retournent, ça prévient pas. Et ce jour-là, eh bien, tout simplement, vous êtes en banqueroute.
C'est vrai qu'en 2011, ça s'est retourné sur l'Italie assez vite. On a vu le taux italien s'envoler en l'espace d'une semaine. Il a fallu écarter du pouvoir Silvio Berlusconi, qui était rattrapé par des scandales.
Donc, est-ce qu'on peut augmenter les impôts? Bon. Réponse non. On est numéro champion
alors,
du monde.
Alors, évidemment, sur les impôts,
il va falloir s'occuper de la dépense.
La synthèse de Dorothée.
Ouais, je vais revenir au point de départ. Effectivement, je vais avoir deux points d'accord avec Patrick Artus et un gros point de désaccord. Dans les points d'accord, c'est que je pense que les termes banqueroute, faillite, chaos, enfin, il ne faut pas surdramatiser. Effectivement, la dette française n'a pas de mal à trouver preneur. Elle est toujours très prisée. Le spread n'a pas bougé par rapport à l'Allemagne, donc on n'est pas non plus dans une situation où on est au bord de la difficulté de financement de très loin. L'autre point d'accord, c'est il faut faire attention à préserver les dépenses, les investissements d'avenir.
Donc c'est le point numéro 1, Patrick, et le point numéro 2.
Le point numéro 2, l'union fiscale franco-allemande, on en est encore très loin, et je pense que nos partenaires allemands n'achèteraient pas beaucoup ce raisonnement de consolidons nos déficits, et puis en moyenne, on est pas mal.
Vous imaginez,
mais les investisseurs internationaux, les banques centrales d'Asie, sont privées de papier allemand, et elles se reportent vers le papier français, donc la réalité de marché, c'est bien qu'on peut substituer de la dette française à la dette allemande.
Aujourd'hui. Oui, jusqu'à un certain point, aujourd'hui, et on a aussi, par ailleurs, je dirais, des choses qu'on a envie de financer au niveau national, des engagements européens qui demandent d'avoir de la place pour nos priorités. Donc, dire il ne faut pas réduire la dépense au total, non, je pense qu'il faut réduire la dépense publique. Elle a beaucoup augmenté du fait des crises successives, et c'était justifié pendant le Covid, c'était justifié pendant la crise énergétique. On en sort. Il y a un moment où, oui, on arrive au point où il faut faire des choix sur la dépense parce qu'il faudra financer plus de transition écologique, probablement plus de défense.
Et
le vieillissement, ça demande de faire des choix par ailleurs. La question, c'est pas est-ce qu'il faut réduire la dépense publique. Pour moi, c'est pas non plus est-ce qu'il faut augmenter les impôts, parce qu'effectivement, on est quand même déjà assez haut. C'est plus à quel rythme et comment.
Quel est le bon rythme pour justement...
Ne pas couper dans les dépenses d'avenir qui obéreraient notre croissance future, ne pas couper non plus trop dans les dépenses qui sont utiles pour la croissance aujourd'hui, parce qu'on ne veut pas se retrouver non plus dans une spirale où on coupe tellement que finalement on n'a plus de croissance, et en termes de dette publique qui est rapportée au PIB, si on a moins de PIB, ça ne nous aide pas. Donc trouver ce bon équilibre et le bon rythme, c'est ça la vraie question. Alors, le fait qu'il faille réduire les dépenses, je pense que c'est...
Quel rythme et où, effectivement, oui. Cette question, on la pose souvent, la réponse, elle ne crève pas les yeux. Parce qu'on a vu le rythme du décret à 10 milliards, on a vu où est-ce qu'on est allé chercher les sous, un petit peu partout, en urgence. Est-ce que c'est viable, demandait à l'instant Guillaume Poitrinal, Patrick Artus. Vous dites, c'est pas le moment, la dette est demandée, il faut pas taper dans les dépenses d'avenir, mais est-ce que ça peut tenir?
Évidemment, il y a une limite. Mais je pense que ça serait extrêmement dangereux de faire une politique de contraction de la demande publique totale. On va avoir à peu près 1% de croissance d'ici 2027 chaque année. Si on veut rester sur l'objectif budgétaire qui est 2,7 points de PIB à l'horizon de 2027, on va perdre un point de croissance chaque année par la baisse des dépenses publiques. Donc on va se retrouver à zéro de croissance du PIB chaque année entre maintenant et 2027.
Si on veut baisser nos déficits, tuer le peu de croissance qui nous reste.
Je pense qu'il est mieux d'amorcer une trajectoire, puisqu'on a du temps, les marchés ne nous en veulent pas, on n'a pas du tout de situation de crise, il vaut mieux amorcer une trajectoire de changement de la structure de la dette, de la demande. Hein, et donc, progressivement, augmenter les dépenses publiques qui aident à la réindustrialisation, de transition énergétique, d'éducation, d'éducation, de recherche, et diminuer un certain nombre de dépenses publiques.
À lesquelles ?
Mais il n'y a pas de dépenses publiques qui l'idée qu'il y a des dépenses, des baisses de dépenses publiques seraient neutres vis-à-vis de la croissance.
Ça n'est jamais
Mais non, il y a un multiplicateur budgétaire, en gros.
Ça n'est jamais neutre, mais le multiplicateur n'est pas le même pour toutes les dépenses.
Oui, mais
ça permet aussi de
là, ça, c'est très compliqué. Ça dépend du cycle conjoncturel. Ça dépend de plein de choses. Et...
Oui, on peut aussi dire, du coup, bah, puisqu'on ne sait rien, on ne fait rien. Mais je pense qu'on a quand même pas mal d'études sur les différents multiplicateurs des différentes dépenses. Et on peut essayer de cibler de manière à avoir le moins d'impact sur la croissance possible.
Là où vous vous retrouvez avec Dorothée, c'est qu'effectivement, il faut déterminer un rythme, un calendrier. On n'est pas obligé de faire ça. Là, c'est un peu l'urgence. Les 10 milliards, et puis on passe de 12 à 20 pour 2025. Et puis, un sentiment d'urgence. Mais après, il faudra les identifier, ces dépenses qu'on peut se permettre de baisser.
Et puis les marchés financiers accepteraient complètement une trajectoire sur quelques années qui augmenterait la part des dépenses d'avenir, soutiendrait la croissance potentielle et restaurerait la crédibilité, enfin la soutenabilité de la dette en 3 ans, 5 ans, etc.
Ils ne demandent pas qu'on
retourne l'année prochaine à une dette soutenable. Donc je pense qu'il faut prendre du temps et acter que c'est notre structure de dépenses qui n'est pas bonne.
La structure de dépenses n'est pas bonne, il va falloir faire des choix alors. Et aujourd'hui.
Que la dépense sociale soutienne l'économie, oui, à court terme. Mais trop de dépenses publiques ne soutient pas l'économie. Les pays à forte croissance sont les pays, quand même, malgré tout, qui, autour du monde, ont réussi à contenir leurs dépenses publiques et ont réussi à contenir leurs impôts. Nous, c'est open bar. Donc, on est les numéros 1 mondiaux. On est les champions du monde de la dépense publique.
Vous avez un phénomène récessif. Si vous coupez 20 milliards dans votre budget de l'année en cours, vous avez un phénomène récessif.
Vous savez, de temps en temps, moi je viens du monde des entreprises, je suis pas un grand économiste, mais de temps en temps, quand on a une entreprise en difficulté, quand on a une entreprise sur laquelle on veut faire passer un cap, il faut accepter de mettre les comptes dans le rouge. Pourquoi ? Parce qu'il faut travailler dans le dur. Et c'est probablement l'erreur du président Macron avec ses mandats, je m'en suis très ouvert avec lui, c'est que finalement, en fait, oui, il y a eu quelques réformes de fiscalité qui étaient probablement assez intelligentes.
C'est 2017, hein,
sur le truc. Il y a eu des réformes sur le droit du travail, etc. Mais l'ossature de notre dépense publique, c'est-à-dire les ARS avec autant de monde, c'est-à-dire le personnel hospitalier administratif, c'est-à-dire le nombre de profs par élève, c'est-à-dire le nombre de collectivités locales, le temps perdu à nous, promoteurs immobiliers, à aller voir monsieur le maire, monsieur le président de la communauté de communes,
vous nous
évidemment,
le racontez à chaque fois,
l'un et l'autre ne s'occupe pas du PLU, ni des mêmes choses. Le temps perdu avec l'autorité environnementale, le temps perdu avec la multiplication des autorités, le temps de la complexité administrative qui embourbe tous les entrepreneurs du pays, qu'il s'agisse d'un monsieur qui veut ouvrir une usine demain, ou même des mines d'Imerys, puisqu'on va parler tout à l'heure des mines d'Imerys.
Dans l'Allier, oui.
Tout ça, ça a de l'argent. Tout ça, ça coûte. Et un des sujets d'ailleurs des économistes, je l'ai dit dans mon premier bouquin il y a 10 ans, c'est que les économistes s'occupent du numérateur de la production, ils s'occupent jamais du temps. Le dénominateur ne préoccupe pas les économistes. Or, le PIB est un rapport de production au temps. Donc tout ce qui est perdu comme temps, que vous ne connaissez pas et qui est quasiment pas mesurable, tout ce qui est perdu comme temps, autorisation de mise sur marché d'un nouveau pansement par Urgot, c'est impossible à chiffrer. Parce que derrière,
on a chiffré le coût annuel de la complexité à 60 milliards d'euros.
Quand on met 20 ans à faire une tour à côté dans le truc, alors que dans beaucoup de pays on met 5 ans, évidemment ça a un impact sur le PIB. Qu'est-ce que vous pouvez le savoir? Qu'est-ce que vous pouvez le mesurer? Notre-Dame-des-Landes, tout cet argent qui a été inutilisé, on aurait pu le dire d'ailleurs à nos amis de Vinci, au bout de 2 ans, il n'y aura pas d'aéroport. Non, on les a fait courir, on a même dégagé des terrains, on a fait des trucs, ça a coûté une fortune pour rien. Aujourd'hui d'ailleurs, Vinci demande plus d'un milliard à l'État.
Patrick, les dépenses, il faut faire des choix. Alors où est-ce qu'on va pouvoir faire des économies? Parce que rien n'est indolore. Dès que vous allez faire une économie, là, on commence à lui dire, on va peut-être moins rembourser les affections longue durée. Oui, mais on sait que ça va coûter à quelqu'un. Vous voulez vous former, vous aurez 100 euros à payer pour votre compte. Voilà des économies. Mais chaque économie correspond à une poche qui sera soit prélevée, soit moins remplie.
Oui, mais il va falloir assumer qu'on dépense trop d'argent pour le transport médical, on dépense trop d'argent pour l'indemnisation du chômage. D'ailleurs, on ne dépense pas assez d'argent pour le retour à l'emploi des chômeurs. Hein, donc, c'est un cas de mauvaise allocation de la dépense. Qu'on dépense trop d'argent dans la bureaucratie, dans l'éducation nationale. Donc, il y a beaucoup de non-enseignants, hein, de gens qui ne sont pas en situation d'enseignement, dans la santé, dans l'éducation nationale, et il faut changer tout ça. Donc, il y a des pistes d'économie qui probablement peuvent pas se réaliser très rapidement. Le danger des économies très rapides, c'est qu'à nouveau, elles vont, comme les économies qui ont été faites en 2024, elles vont affecter les ministères qui devraient pas subir d'économies. C'est l'éducation, c'est la recherche, c'est l'environnement. Donc quand on est dans l'urgence à la recherche d'économies, effectivement,
les bêtises.
On ne peut pas réduire la bureaucratie de l'éducation nationale dans l'année. Quoi, je veux dire, c'est un programme de moyen terme. Donc je pense qu'il faut prendre son temps et avoir un programme multiannuel de transfert de la dépense vers des dépenses plus productives.
Monter les impôts. Dorothée, allez-y, après monter les impôts, et puis ensuite on fera la page 68 du livre de Le Maire.
Avant monter les impôts, moi je pense que, enfin, oui, il faut prendre le temps de faire des choix, mais c'est un peu, enfin, c'est l'objectif de regarder des économies structurelles. Effectivement, ça se fait pas en deux mois. Ouais. Après, c'est un processus qui est enclenché, donc on cite les revues de dépenses, il y a les dispositifs médicaux, il y a un certain nombre de champs. Ça prend un peu de temps, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas non plus trouver des choses qui commencent dès le budget 2025. Enfin, il ne faut pas non plus se dire tout doit prendre 5 à 10 ans et donc ne faisons rien. Et je pense d'ailleurs, pour faire le lien avec le sujet suivant, si on commence à dire attendons parce que c'est très compliqué avant de commencer à baisser les dépenses, la musique de on nous prépare des hausses d'impôts va augmenter, et ça non plus, ce n'est pas très bon pour l'économie en fait. Hein, l'incertitude de se dire est-ce que les impôts vont augmenter en termes d'investissement, etc. En général, ça ne marche pas très bien. Donc il y a quand même des raisons aussi de se dire regardons la dépense assez vite pour aussi rassurer les gens sur le fait que les impôts vont pas trop augmenter. Ensuite, sur quel domaine de dépense, enfin, quand vous dites 10 milliards, on a fait tout ce qu'on a pu, faut voir que ces 10 milliards d'abord ils ne sont que sur l'État.
Dépense d'État,
la dépense publique, c'est en gros 30% l'État, 20% les collectivités locales, 50% la sécurité sociale. Donc sur les 70% restants, pour l'instant, pour cette année, ça n'a pas vraiment commencé. Il y a sans doute quand même des choses à faire, à la fois à court terme et de manière plus structurelle, en cherchant l'efficacité. Et je pense se dire aussi, il y a tout un ensemble de ministères, parce qu'ils correspondent à nos priorités, qui doivent être complètement exonérés. Je suis pas complètement sûre. Enfin, c'était aussi, donc oui, dans le décret à 10 milliards, il y a des ministères, on peut se dire pourquoi la transition écologique, pourquoi l'éducation. Toutes les dépenses de l'éducation ne sont pas les salaires des profs. Hein. Il y a aussi d'autres dépenses de fonctionnement. Il y a aussi, donc je pense que.
Oui, il faut regarder dans le détail les dépenses dont on parle, parce que si on donne que l'intitulé, on a une émotion immédiate. Alors que dans le détail, souvent d'ailleurs, c'était des crédits de réserve qui étaient là pour...
Dernier point en termes de un peu critères pour essayer de se dire quelles dépenses regarder. Donc vous dites oui, enfin quelque part, toute dépense, c'est un paiement qui va à quelqu'un. Oui. Ensuite, en tant qu'économiste, on aime bien réfléchir aux incitations. Donc il y a aussi des domaines, oui c'est le cas dans certains domaines de la santé, de la formation, etc., où parce que le reste à charge en fait est très faible, quelque part on consomme trop, ou on consomme des choses dont on n'a pas vraiment besoin, où ça pourrait être plus efficace, mais au fond si je paye rien et que c'est la sécurité sociale qui paye, pourquoi m'embêter? Cette démarche un peu de responsabilisation et d'incitation, on peut aussi la regarder dans un certain nombre de domaines, et ça aide aussi à prioriser ou à aller chercher.
Oui, il y a des trucs à faire.
C'est l'idée de la fameuse gratuité universelle que dénonçait Bruno Le Maire à l'occasion de son entretien au JDD. C'est l'idée qui a poussé à créer un forfait de 100 euros pour l'utilisation du compte personnel de formation.
Il y a des impôts qui sont complètement à l'envers de ce qui devrait être. Je prends l'impôt sur les plus-values immobilières. Le truc délirant qui vous dit, pour faire très simple, si vous voulez payer zéro d'impôt sur les plus-values immobilières, il faut détenir votre bien pendant plus de 30 ans. Oui, d'abord, alors, immense cadeau aux seniors qui, eux, sont assis chez eux dans le truc. Comme ça, au moins,
ça fait des années qu'on dit qu'il faut inverser la logique.
C'est évident. Et immense pénalité pour les jeunes qui achètent un deux pièces, qui ont besoin d'un trois pièces, qui ont besoin de vendre, etc. Et qui, au bout de 3-4 ans, alors eux, s'ils font une plus-value, ils sont juste martyrs fiscaux. Donc, parce qu'ils sont à l'intérieur de la tranche des 5 ans où ça n'a pas baissé d'un seul centime. Donc évidemment, voilà un impôt dans lequel, si on avait une assiette large, et un taux bas, enfin un taux modeste, tout le monde accepterait de payer cet impôt, et voilà de l'argent qui rentrerait, et en plus, on ferait des droits de mutation, parce qu'on aurait beaucoup plus de fluidité. Aujourd'hui, le nombre de gens qui sont assis sur leur truc en regardant, ah ben non, il reste 28 ans, 29 ans, je veux descendre à zéro, à 30 ans, on reste encore un peu, et l'année prochaine, c'est bon, jackpot, on est à 0% sur les plus-values. Voilà un impôt totalement idiot.
Ouais, ouais,
voilà. Donc là, moi je propose, vous voyez, pour une fois, je propose une taxation de l'immobilier, vous vous rendez compte. Je propose d'en finir avec ce 0% de taxation des plus-values immobilières pour votre résidence secondaire. Je rappelle que c'est exonéré pour la résidence principale, pour ceux qui nous écoutent. Mais pour la résidence secondaire, c'est débile.
Marc, une pause. Dans un instant, je vous demanderai quand même, Patrick Artus, ce que vous pensez des impôts, parce que il n'y a pas que des sados fiscalistes de l'Assemblée nationale qui ont des idées farfelues de fiscalité. Il y a quand même pas mal d'observateurs qui considèrent qu'on n'échappera pas à la case hausse d'impôts. Alors après, il y a des hausses d'impôts évidentes, et puis après, il y a aussi des hausses d'impôts qui consistent à tailler les niches fiscales. C'est à peu près le même effet. Et puis, je vous ferai réagir à la proposition. Enfin, la proposition, elle n'est pas révolutionnaire, mais l'idée de basculer des cotisations payées par les actifs vers des impôts à assiette large et à taux bas. C'est la TVA ou la CSG. On en a souvent parlé, mais en tout cas, c'est à nouveau d'actualité dans le livre de Bruno Le Maire. On fera un peu de CETA et puis la note de la Banque de France. À tout de suite.